des questions que je développe pas maintenant. Ah oui, on lit souvent dans l'Écriture, Dieu se repentit d'avoir créé l'homme et la femme. Je les vomirai. Comment concilier entre l'immutabilité de Dieu et le repentir de Dieu? C'est un langage symbolique, anthropomorphique, pour nous faire comprendre que Dieu n'est pas indifférent. Et donc que le péché touche quelque chose. La vulnérabilité de Dieu. Moi, c'est ce que j'appelle la vulnérabilité de Dieu. C'est très mystérieux. Là, on est dans tout un mystère qui va très loin. Voyez, alors, pour réfléchir un instant, donner un axe de réflexion. J'atteins le mystère de Dieu par le point de vue de l'être et par le point de vue de l'amour. Dieu est souverainement bon, Dieu est l'être immuable. Du côté de l'être, je conclus l'immutabilité. Du côté de l'amour, je conclus la vulnérabilité. Et je dois toujours allier les deux. Dieu n'est pas indifférent. C'est bien évident. C'est pas parce que je ne le change pas que Dieu est indifférent. Nous avons cette petite vision que les gens qui ont l'air de ne pas être atteints par telle ou telle chose sont complètement indifférents. Ils passent. Et il n'y a que quand les gens se mettent à crier et hurler qu'on dit « Ah oui, ils souffrent. » Vous voyez, nous sommes comme ça, c'est que nous regardons les effets à cause de notre sensibilité. Et nous ne regardons pas directement la source. Or, en Dieu, tout est source. C'est ça qui est extraordinaire en Dieu. Parce qu'il n'y a rien d'apparence. Il n'y a pas en Dieu l'apparence et l'intérieur. Il n'y a pas l'intériorité et l'extériorité en Dieu. Tout est source, tout est intériorité. Et c'est pour ça que Dieu est immuable en ce sens que nous ne pouvons pas changer Dieu, ne pouvons pas aimer. En même temps, Dieu a une vulnérabilité mais infiniment plus grande que nous. Ce qui explique comment le péché atteint Dieu. Il l'atteint sans le changer. Il atteint Dieu. Alors les théologiens vont inventer un petit langage particulier pour dire que ça atteint la gloire extrinsèque de Dieu. Je veux bien. Mais voyez qu'est-ce que ça veut dire. Ça veut dire que ça tout, il y a une vulnérabilité en Dieu. Satan ne parle pas de la vulnérabilité de Dieu, mais je crois que nous devons ajouter ça. C'est pas du tout en opposition. C'est que notre langage à nous aujourd'hui est plus psychologique que le langage de saint Thomas, qui est d'une très grande objectivité. La vulnérabilité, c'est un aspect subjectif, c'est sûr. On est vulnérable, c'est-à-dire qu'on est capable d'être atteint par quelque chose. On n'est pas indifférent. Plus on aime, plus on est vulnérable vis-à-vis de ce qu'on aime. Ça, c'est sûr. Et en Dieu, comme il y a un amour substantiel, il y a une vulnérabilité substantielle. Ça va très loin. Alors, ça explique comment le mystère de la croix le mystère de Jésus souffrant à la croix nous fait entrer dans ce mystère de vulnérabilité de Dieu que nous devons contempler, la vulnérabilité du Père. Vous voyez, quand on regarde le point de vue de l'enfant prodigue, la parabole de l'enfant prodigue, le Père n'est pas du tout indifférent, il attend. Et Dieu attend. Alors qu'est-ce que c'est que cette attente de Dieu? Mais c'est son amour. On attend quand on aime. Et dès qu'on aime, on attend. On attend celui qu'on aime, qu'il revienne. Alors comment exprimer ça? Vous voyez, c'est là notre pauvre langage qui n'est pas divin. Il est humain. Alors nous, il y a toujours une opposition entre les deux, une opposition entre le point de vue d'être indifférent, de ne pas changer, et puis le point de vue, au contraire, de souffrir. Et quand on souffre, quand on pâtit, on change. Bon, je ne vais pas plus loin, parce qu'il y a le sujet que nous devons traiter maintenant, un sujet dans lequel nous allons entrer simplement, et puis on essaiera de continuer de temps en temps sur ce grand sujet. Toute l'éducation humaine aboutit à former une personne. Et c'est une éducation chrétienne à former une personne qui soit enfant de Dieu. Et toute l'éducation des parents, c'est cela. Et puis après, notre auto-éducation, c'est de maintenir en nous et d'agrandir en nous ce qu'est une personne. La personne, c'est celle qui est capable de dominer sur son corps, de dominer les réalités qui sont inférieures à elle, et de choisir son orientation. Une personne humaine, c'est une personne qui est capable de choisir un ami, de se choisir un ami. Une personne humaine, c'est une personne qui est capable de se choisir une orientation contemplative de sa vie. Une personne humaine est capable de se choisir, quand elle le peut, un métier. Le choix caractérise très très fort la personne humaine, à tel point que chez les stoïciens, c'est le choix qui caractérise la personne. C'est pas entièrement vrai, mais si je prends le choix au sens très très profond, c'est vrai. Parce qu'on ne choisit pas que des moyens, on choisit aussi sa fin, on choisit aussi son ami. Et vous voyez, dans l'amitié, le choix va très loin et touche la question de la personne. Et c'est vrai que c'est très révélateur de ce qu'est une personne dans son choix. Quand elle choisit un époux, un jeune homme qui choisit son épouse, c'est très caractéristique, ou une épouse qui choisit son époux, parce que quelquefois c'est l'épouse qui doit choisir, quand l'époux est trop indéterminé. Alors aujourd'hui, n'est-ce pas, depuis la libération de la femme, elles savent très bien choisir, et elles savent ce qu'elles veulent, alors elles se choisissent. Et ça m'a toujours beaucoup, beaucoup frappé, ça. Quand on enseigne à des jeunes, ça arrive que ces jeunes qu'on connaisse bien, qui sont à un âge de se marier, viennent présenter leur fiancée, ou bien celle qu'ils pensent être fiancée. Je me souviens, plusieurs étudiants étaient comme ça, en me disant, « Mon père, vous m'aimez beaucoup, mais j'aimerais beaucoup avoir votre conseil. » Alors, vous comprendrez, je vous présenterai une jeune fille, du doute, vous comprendrez tout de suite. Et puis après, vous me direz ce que vous en pensez. Alors, je dis toujours, attention, attention, c'est pas moi qui vais l'épouser, faites attention. C'est vous, donc c'est vous qui devez choisir. Moi, en définitive, je suis là uniquement à titre de conseil pour donner une première impression, mais c'est toujours tellement difficile, une première impression. Mais c'est toujours très, très mystérieux de voir le choix. Je comprends très bien que les stoïciens disent que c'est le choix d'une personne qui reflète. Très très étonnant. La profondeur du choix et la qualité du choix. Bon, ce qui est sûr, c'est que le choix est libre. Quand vous choisissez, vous faites un acte de liberté. Alors, vous voyez tout de suite le problème. Si nous sommes gouverné par Dieu. Si Dieu a sur nous un regard, providence et de gouvernement, est-ce que c'est notre choix que Dieu attend pour se déterminer sur nous, ou est-ce que Dieu nous a regardés avant notre choix? Vous savez, c'est l'exemple classique, de savoir si, quand on dit que Dieu voit tout, que Dieu a tout prédestiné, on dit ça au point de vue théologique, que Dieu prévoit tout et gouverne tout, pas un cheveu de notre tête ne tombe sans que le Père Céleste ne le permette. Alors a fortiori, le choix d'un ami, parce que nos cheveux, très bien, mais un ami bien plus important. Alors si Dieu choisit en même temps que nous, nous choisissons en dépendance de lui. Et donc notre choix, je dis ça, c'est parce que pour certains, vous savez, pour certains, c'est à partir de là qu'ils prouvent l'existence de Dieu ou à partir de là qu'ils nient l'existence de Dieu. Hartmann, un philosophe allemand, dit que si Dieu existait, il n'y aurait plus de choix. Or, il existe des choix, donc Dieu n'existe pas. Des choix libres. Vous voyez un petit peu le même raisonnement, d'une autre manière, mais le même raisonnement très analogue à celui de Nietzsche. Si Dieu existe, il est le créateur. Or, je suis créateur, donc Dieu n'existe pas. Et on voit très bien cette position de mettre en opposition le choix libre de l'homme et le point de vue de la négation de Dieu, parce qu'autrement, si Dieu existe, il est vraiment celui qui prévoit tout et qui gouverne tout. C'est pas si commode que ça de répondre. Hein. Je vous demanderai de répondre, je ne sais pas quels sont les petits papiers que j'aurai comme réponse. D'autres, au contraire, disent le choix libre que l'homme pose est un moyen de rejoindre l'existence de Dieu. C'est le point de vue de Kant. L'impératif catégorique est relié à la volonté de Dieu sur nous. Donc, c'est très important. Il y a là, autour du choix, quelque chose qui fait tourner vers la négation de Dieu ou, au contraire, l'affirmation de Dieu. C'est qu'en effet, le choix libre sur l'orientation de notre vie, le choix d'une vocation. Je vais entrer à Saint-Jodard. Justement, ce n'est pas entrer à Saint-Jodard qui est important, c'est entrer en me donnant totalement au Seigneur. J'ai choisi ça. Librement. Et je suis sûr que c'est libre. Oh, j'ai subi des influences, c'est sûr. Si je vois un psychologue ou un psychanalyste, il essaiera de voir que ce choix n'est pas libre du tout. Vous avez subi l'influence d'un grand-oncle qui était prêtre, qui était religieux. Vous avez subi l'influence d'une mère qui avait la vocation pour vous. Vous avez subi et un tas de choses comme ça, vous voyez, qui montrent que votre choix n'est pas libre du tout. On connaît ces arguments-là, vous voyez. C'est possible qu'il y ait ça. Vous avez rencontré quelqu'un qui était tout proche de vous et puis qui a déclaré qu'il avait la vocation et donc ça a poussé 15 jours après pour vous. Ça existe, c'est évident. Vous savez, c'est même dans l'Écriture. Il était de Bethsaïde, la ville de Pierre et d'André. Je trouve ça très délicat de la part du Saint-Esprit de nous avoir fait comprendre que les psychologues diraient le même raisonnement et que le Saint-Esprit nous l'a dit d'avance pour que nous ne laissions pas prendre. Ce qu'il est évident, quand il s'agit du choix de l'apôtre Philippe, c'est Jésus qui l'a regardé. Suis-moi. Peu importe qu'il soit de Bethsaïde. Jésus ne l'a pas choisi parce qu'il était de Bethsaïde. C'est un petit à côté. C'est très important, ça a peut-être joué un rôle énorme. Peut-être que dans l'inconscient de Philippe, à ce moment-là, quand Jésus a dit « Suis-moi », Philippe s'est dit « Oui, oui. Ah tiens, il y en a un autre à qui il a dit ça avant. Il me le dit maintenant. » Là, ça a peut-être joué, c'est possible. Mais autre chose, les motivations. Autre chose, le choix dans ce qu'il a de tout à fait propre où on est libre, plus ou moins libre. Et la liberté ne se saisit que de l'intérieur. Hein, n'oubliez jamais ça. Comme l'esprit. Donc celui qui n'a jamais posé un acte libre dans sa vie ne sait pas ce que c'est. Très extraordinaire ça. Celui qui vit entièrement dans le conditionnement est tenté de dire pas de liberté. Tandis que quand on a posé dans sa vie quelques actes libres, on sait qu'on les a posés librement. Parce qu'on sait que c'est en priant, on sait que c'est en aimant qu'on a posé cet acte. et qu'on les a posés vraiment par amour. Et donc, Dieu seul sonde les reins et les cœurs, c'est-à-dire Dieu seul entre dans cette intériorité propre de l'esprit et dans cette intériorité propre de la liberté. Je peux dire, j'ai choisi ça librement, mais quelqu'un d'autre ne peut pas l'expérimenter. Vous n'avez jamais expérimenté la liberté. Un acte libre, non? Vous l'avez entendu. Vous ne l'avez jamais expérimenté pour les autres. Pour vous, vous l'expérimentez intérieurement. Vous ne pouvez pas voir de l'extérieur si c'est un acte libre ou pas. Tandis qu'intérieurement, vous le savez. Vous voyez, c'est très important, ça, de comprendre ça. Alors, cet acte libre que vous posez, quel est le lien avec le gouvernement divin? Vous pouvez arriver à préciser quel est le lien avec vos parents. Vos parents vous ont éduqué, ils vous ont orienté, ils vous ont dit leurs désirs. Puis un beau jour, vous avez pu librement dire à votre mère « Oui, je suis tout à fait d'accord » ou à votre père « Je suis tout à fait d'accord » ou bien l'inverse. Souvent, du reste, c'est par la négation que s'exprime le mieux la liberté. C'est pour ça qu'on aime particulièrement la négation. Je ne veux pas faire ça. Après tout, je suis libre. Vous savez, le petit bonhomme qui dit ça la première fois, il le dit en relevant sa tête comme un petit coq, il dit « Je suis libre ». Puis il tourne le dos et puis s'en va. Puis on attend combien de temps? Puis d'un certain temps, il revient, l'enfant prodigue. Pas aussi longtemps que l'enfant prodigue, mais il revient un peu plus vite. Quel est le lien entre eux? Parce que ça, c'est le problème majeur. À l'égard des parents, les parents ont une influence. Et nous savons très bien que les parents n'atteignent pas le fond de notre cœur, le fond de notre intelligence. Et Dieu, oui. Alors, quelle est la place exacte du gouvernement de Dieu? Je ne dis pas seulement de la providence, mais du gouvernement de Dieu sur un acte libre. Comment comprendre? Alors, réfléchissons un instant. Qu'est-ce que c'est qu'un choix libre? Je prends le choix parce que c'est là où on a le plus conscience. On pourrait très bien prendre la liberté d'accepter de faire quelque chose ou de le refuser. Ce qu'on a appelé en scolastique la liberté d'exercice. C'est vrai, il y a deux types de liberté. Il y a la liberté d'exercice. Je pose cet acte, ou au contraire, je ne le pose pas. Et le réveil matin sonne. Vous l'écoutez ou vous ne l'écoutez pas. Vous n'allez pas dire « je choisis qu'il s'arrête ». Non. Vous l'écoutez ou vous l'écoutez pas. Donc ça, c'est le choix d'exercice. C'est la liberté d'exercice. Et puis la liberté de choix qui porte sur telle ou telle activité. Oui, c'est deux choses différentes. La liberté d'exercice va beaucoup plus loin. Elle est radicale, celle-là. La liberté de choix, je prends exprès le choix le plus fondamental et le plus important qui soit, c'est choisir un ami. C'est choisir l'orientation de sa vie. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un acte libre? Un acte libre, c'est un acte dont je suis, moi, l'auteur principal. Il faut que je puisse avoir conscience d'être l'auteur principal de cet acte pour dire que cet acte est libre. C'est un acte qui provient de moi. Mais qui provient de moi dans telle ou telle circonstance qui fait que cet acte, je le pose. Après avoir réfléchi, délibéré, je le pose consciemment. Quelquefois, on pose des actes, jusqu'à la dernière minute, on hésite. Hein, au moment des élections. C'est un acte libre d'aller voter. Je vote ou je vote pas. Et je vote pour cette personne-là. Est-ce que c'est bien là, en allant voter, il y a un frère à côté de vous qui lui, délibérément a choisi son candidat. Il vous dit alors, hein, parce qu'il ne respecte pas toujours la liberté de l'électeur. Alors il veut savoir ce qu'il a mis. Et puis l'autre dit, mais non, il ne faut surtout pas voter pour lui. Non, non, surtout pas. Et puis il vous donne une série d'arguments. Puis alors vous commencez à faiblir. Vous savez plus très bien. Vous arrivez, pas le temps de réfléchir, pas le temps de demander à quelqu'un d'autre. Vous arrivez, il y a des papiers là à côté. Il y en a un qui vous fera plus si vous le prenez. Parce que c'est un acte libre. C'est un acte qui est mitigé. Hein. Parce qu'on a influencé, vous n'avez pas hésité, vous ne savez pas très bien. Et puis même à la dernière minute, vous ne saviez pas. Et puis après tout, vous avez dit après tout. Ça se voit à peu près tout ça, ça ne veut pas d'importance. Une goutte d'eau dans l'océan, qu'est-ce que c'est? Pas grand-chose. Oui, il y a des actes comme ça qui sont très peu libres. Les moutons de Panurge. Parce que les moutons de Panurge, c'est ça. Il y a celui qui a une gueule un peu plus puissante et qui se fait entendre et les autres, ils suivent. On a dit pourquoi vous suivez? Oh, tout simplement parce qu'il a crié plus fort. Oui, et parce qu'il a crié plus fort, c'est pas du tout un argument. Il a crié plus fort. Et on suit. C'est constamment comme ça, dans l'humanité. On suit. Il y a très peu de liberté. Et c'est vrai, quand on regarde attentivement, on voit très bien qu'il y a peu de liberté. Pourquoi? Parce que pour qu'un acte soit libre, il faut un très grand amour. Il faut un très grand amour. Quand l'amour diminue, la liberté diminue. Quand vous êtes dans un domaine, vous savez, où ça vous est complètement égal, alors là, vraiment, va comme je te pousse, n'importe comment, ça n'a aucune espèce d'importance. Alors ça, c'est très important de se rappeler ça. Ça, c'est la grande vision de saint Thomas. Descartes fait l'inverse. Il met la liberté au-dessus de l'amour. Ça, c'est la chose terrible de Descartes. D'avoir mis l'amour, la liberté au-dessus de tout. C'est par la liberté que je ressemble le plus à Dieu. Alors que nous dirions, c'est par l'amour spirituel que nous ressemblons le plus à Dieu. Et nous dirions que la liberté, ce n'est qu'un mode particulier de l'amour. Mais ce n'est pas l'amour. Il y a des gens qui sont libres et qui ne savent pas quoi faire. Alors à quoi ça sert? Tandis que quand les gens aiment, ils savent quoi faire. Ils sont orientés. Bien ou mal, ça dépend si leur amour est vrai ou pas vrai, mais ils sont orientés. C'est à partir de l'amour que naît la liberté. C'est le fondement radical. Mais ce n'est pas suffisant. L'amour ne suffit pas à expliquer la liberté. Il faut l'éveil de l'intelligence. Il faut l'éveil d'une intelligence pratique. Pas d'une intelligence spéculative, d'une intelligence pratique. C'est pour ça que ça peut expliquer que des gens qui sont très forts au point de vue spéculatif n'ont pas beaucoup de liberté au plan pratique. Parce que c'est l'amour et l'intelligence pratique, l'intelligence prudentielle, qui me montre le lien qui existe entre le choix de telle ou telle chose avec ma fin. C'est ce qu'on va appeler, voyez, le libre arbitre. Le libre arbitre n'est pas une nouvelle puissance ou une nouvelle faculté, c'est l'intelligence au service de l'amour qui essaie de comprendre comment l'amour que j'ai pour une personne pourra augmenter, pourra s'intensifier par le choix de tel ou tel moyen. C'est donc cet acte d'intelligence pratique au service de l'amour et dans l'amour, qui est clos dans l'amour. L'intelligence pratique, l'intelligence prudentielle, elle naît dans l'amour. Quelqu'un qui serait sans amour ne saurait pas ce que c'est que l'intelligence prudentielle. L'intelligence prudentielle, elle naît dans l'amour et elle est au service de l'amour. Et elle est là pour montrer toute la distance qui existe entre tel moyen et la fin que je poursuis. Et l'amour que j'ai pour ce bien personnel. Cette intelligence prudentielle montre qu'il y a divers moyens. Il n'y a pas qu'un seul moyen. Il y a divers moyens pour atteindre cette fin. Et parce qu'il y a divers moyens pour atteindre cette fin, je compare ces moyens pour savoir lequel sera le plus efficace, lequel est le plus proche de moi, lequel sera en plus grande connaturalité avec moi. Donc j'étudie l'aspect de convenance de ces moyens. C'est là où il y a une délibération. Je vois le pour et le contre. Et si je peux, je demande conseil. Demander conseil, c'est justement s'éclairer sur la qualité des moyens qui sont possibles en vue de telle fin. Donc je peux m'éclairer, je peux demander conseil, mais en définitive, je suis seul à choisir. Donc, c'est la personne humaine qui est ordonnée vers la fin, vers sa fin, vers son bien, qui choisit. Le dernier moment de la liberté, c'est toujours la personne humaine dans sa relation vis-à-vis du bien qu'elle aime, vis-à-vis de la fin vers laquelle elle tend. Et j'incline ou je choisis tel moyen, quelquefois, je dis bien quelquefois, sans pouvoir même justifier à mes propres yeux que j'ai choisi ce moyen. Ça peut aller jusque-là. On dira, on a du flair, ou je crois bien que c'est comme ça qu'il faut faire. Mais je ne peux pas t'expliquer. Trop intime, c'est trop personnel, c'est... Mais je sens bien que c'est comme ça qu'il faut faire. Alors vous pourrez analyser après pour essayer de comprendre, mais vous verrez bien qu'il y a un petit quelque chose qui provient d'un amour. De l'amour à l'égard de cette fin. C'est ce poids d'amour qui va l'emporter. Parce que on peut raisonner sur les moyens. On peut réfléchir sur la qualité des moyens. On peut voir des moyens qui sont plus proches de moi, mais qui sont moins efficaces, des moyens qui sont plus efficaces, mais qui sont beaucoup trop loin pour moi. C'est toujours le double aspect du moyen. Il y a ceux qui sont les plus proches de nous en code naturalité et ceux qui sont les plus efficaces en vue de la fin poursuivie. Là, il y a des heures de la journée où vous choisissez les moyens qui sont les plus proches de vous et des heures de la journée où vous choisissez le moyen le plus efficace. Parce qu'il y a des heures de la journée où vous êtes plus subjectif. Et des heures de la journée où vous êtes plus éveillé, plus objectif. C'est pour ça que les vieux directeurs spirituels disaient toujours à leurs dirigés, ne choisissez jamais le soir, parce que vous êtes trop affectif. Choisissez le matin, vous êtes beaucoup plus objectif. C'est un petit conseil qui est assez juste. Pour certaines personnes, c'est très net. À partir de telle heure du soir, l'objectivité est tombée dans le nuage de la nuit et il ne reste plus que l'aspect subjectif d'une affectivité grandissante. C'est curieux. Mais il y a quelque chose de juste, parce que c'est vrai que la liberté s'exprime différemment le matin et le soir. Différemment, il y a quelque chose de différent. Vous voyez ? Pour aller voir ses supérieurs, pour demander une permission, il faut tenir compte de ça. Vous voyez ? Ça fait partie de l'intelligence pratique que nous devons avoir. Il faut savoir que peut-être le soir, ils sont fatigués le soir, du reste, ça va plus vite. Vous voyez, alors et comme l'affectivité est plus éveillée, ça sera plus facile. Tandis que le matin, organisation de la journée, là, ça sera beaucoup plus vite. Ce sera quelque chose qui sera plus difficile. C'est curieux, la liberté. quelque chose de très mystérieux. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est nous qui posons l'acte. Alors, comment nous coopérons avec le gouvernement divin dans cet acte de libre arbitre, dans cet acte de liberté? Et voyez toute la difficulté. Sauvegarder mon autonomie comme cause principale. Si je suis quelqu'un de très religieux, j'aurai le souci dans tous mes choix de dire je veux choisir quelque chose qui soit conforme à la volonté de Dieu, à la volonté du Père. Mon seul souci, c'est d'être en conformité avec la volonté du Père. Mon seul souci, c'est ça. Toute âme religieuse dira ça. Les stoïciens disaient ça. Dans tous les choix, se conformer à la volonté du Père. Et la volonté du Père, je ne la vois pas. La volonté du Père est-elle antérieure à ma volonté? Si la volonté du Père, je la connais autant que je peux le savoir, et ma volonté, je vais donc soumettre ma volonté à la volonté du Père, et alors à ce moment, je suis plus libre. J'obéis parce que c'est la volonté de Dieu sur moi. Moi, je le dis. Alors on dira, vous faites un acte d'obéissance, cet acte d'obéissance fait que vous êtes frustré du côté de la liberté. Tout bon psychanalyste freudien vous le dira. Et vous répondez à ce moment-là, pas du tout, je suis librement religieux. C'est librement que j'ai accepté ce genre de vie. C'est librement que je suis religieux et que je veux me conformer à la volonté de Dieu. C'est librement. Donc je suis parfaitement libre de faire ça. Vous voyez, ça recule un peu le problème. Parce que pourquoi avez-vous choisi ça? Est-ce que vous l'avez choisi librement de faire la volonté du Père? Est-ce que c'est vous qui l'avez découvert? Ou un autre? Un Père maître? Un Père spirituel? Une mère très pieuse? Ou une grand-mère très pieuse? Mon petit fait toujours hein, ce qui te semble être la volonté du Père. Alors vous vous demandez, mais quelle est la volonté du Père? Tu prieras et tu la verras. C'est vrai, ça recule le problème. Alors, voyez les rapports. Dieu nous gouverne. Et je peux ajouter, Dieu nous gouverne en voulant que nous soyons libres. Et c'est ça qu'il faut tout de suite ajouter. Dieu nous gouverne en voulant que nous soyons libres. Parce que Dieu nous a créés des êtres spirituels. Et Dieu, créant notre esprit, veut que nous posions des actes libres. Donc c'est une volonté de Dieu que nous posions des actes libres. Donc Dieu ne peut pas être en opposition avec lui-même. Et pourtant, je dois dire que Dieu a tout prévu. Et que le gouvernement de Dieu va jusque dans les détails. Et donc Dieu veut que je fasse telle chose. Dieu a voulu que je sois religieux. Dieu a voulu que je me marie. C'est une volonté de Dieu. Alors comment comprendre ces deux aspects? Vous voyez ce que Bossuet dit, tenons toujours bien les deux extrêmes de la chaîne, mais n'essayons pas de comprendre comment ils s'unissent. Ça, c'est de la prédication, c'est très beau. Tenons bien les deux extrémités de la chaîne. Nous ne voulons qu'une seule chose, c'est que la volonté du Père s'accomplisse. Et nous savons que Dieu veut que nous posions des actes libres. Voilà les deux extrêmes. Vous n'avez pas le droit d'abdiquer votre liberté en disant, je vais devenir celui qui est l'esclave de Dieu. Vous pouvez dire ça intérieurement, Mais extérieurement, vous avez toujours à côté quelqu'un qui dit, oh, tu veux être esclave de Dieu? Ah, oh, maintenant je vais t'avoir, je vais te posséder. Et donc à la place d'être docile à la volonté de Dieu, vous vous livrez à quelqu'un. Or, vous ne pouvez vous livrer fondamentalement qu'à Dieu. Quand la petite Thérèse dit, Seigneur, ôte-moi la liberté de t'enfoncer, c'est très beau. Mais vous savez bien que Dieu ne nous enlevera jamais la liberté de l'enfoncer. Parce qu'elle a enlevé notre liberté. Ce que Dieu fera, c'est que nous l'enfoncions jamais. C'est pas la même chose. La petite Thérèse dit ça, je vois très bien. Mais théologiquement parlant, on voit très bien que c'est pas ça que Dieu veut. Dieu ne veut pas ôter notre liberté. Ça, c'est sûr. Dieu veut que nous soyons des hommes libres. Vous voyez, c'est ce que saint Ignace, dans sa lettre, dans ses constitutions, souligne face à Luther. Il souligne ça avec force, qu'il faut toujours rappeler à l'homme qu'il est libre. Il a raison. Il ne faut pas croire du tout que nous ne sommes pas libres et que par le fait même, nous nous laissons mener par le bout du nez. Parce que Dieu nous demande ça et que c'est soi-disant ce que Dieu réclame de nous. Non, Dieu ne réclame jamais ça de nous. Il ne peut pas. Dieu ne peut pas réclamer l'abdication de notre liberté. Dieu ne peut pas réclamer l'abdication de notre intelligence. Dieu ne peut pas réclamer l'abdication de notre volonté. Impossible. Parce que Dieu nous a créés comme des êtres libres ou capables d'être libres. Comme des êtres capables de devenir intelligents, comme des êtres capables d'aimer et devenir source d'amour. Dieu l'a voulu comme ça. Alors, comment comprendre que Dieu, de toute éternité, nous voit et voit exactement ce qu'il veut pour nous, pour que nous soyons entre ses mains, pour que nous allions très loin dans son amour? Comment concilier cet acte de Dieu et notre liberté? Alors je crois que pour éviter tout conflit, toute erreur, il faut d'abord comprendre que c'est sur deux plans totalement différents. Dieu décide toute chose dans son éternité. Et Dieu a tout décidé dans son éternité. Et Dieu a tout décidé en sachant toutes nos réactions. Il ne nous a pas prédestinés en fonction de nos réactions. Il nous a prédestinés et il nous a gouvernés. Il nous gouverne à cause de l'amour qu'il a pour nous. Et c'est cet amour qu'il fait nous gouverner. Et nous gouverner dans les moindres détails. Il veut que nous soyons fidèles. Fidèles à notre promesse, fidèles à notre amour. Il veut que nous soyons fidèles. Qualité dominante de Dieu, hein, la fidélité. C'est vrai, ça, c'est la qualité dominante de Dieu. Dieu veut que nous soyons fidèles. Nous allions jusqu'au bout de la fidélité. De toute éternité, Dieu veut ça. Puis nous ne sommes dans le temps. Nous ne voyons pas cette volonté de Dieu. Dieu nous donne suffisamment de connaissances pour que nous comprenions à peu près ce que nous devons faire. Dieu nous donne suffisamment de connaissances pour que nous puissions nous orienter. En sachant très bien que nous devrons avoir le souci de demander constamment à Dieu la lumière pour. Alors il est évident que se mettre dans cet état de disponibilité à l'égard de l'Esprit Saint, on subit beaucoup plus les influences de Dieu. Et donc, Dieu peut très bien nous pousser à choisir exactement ce qu'il a voulu, sans que nous le sachions, d'une façon absolue. Vous ne pouvez jamais dire d'une façon absolue que vous êtes sûr que Dieu a voulu absolument que vous fassiez telle chose. De la philosophie, même entrée à Saint-Jean. Ce que vous savez d'une façon certaine, c'est que vous avez voulu faire la volonté de Dieu en entrant à Saint-Jean. Mais vous ne pouvez pas dire, oui, je suis absolument certain que entrer à Saint-Jean, c'était ce que Dieu voulait. Vous voyez, l'illuminisme consiste à dire ça. À mettre la lumière sur la conclusion dernière, sur le cheveu qui tombe. Quand vous tirez sur un cheveu et qui tombe, vous ne pouvez pas dire oui, oui, c'était ça que Dieu voulait à cet instant-là que je fasse. Il y a des gens qui font ça de temps en temps. Je me dis, c'est un petit peu malade, ça ne va plus très bien. C'est le signe que ça ne va plus très bien, ça. Ils tombent dans une espèce d'illuminisme comme s'ils voyaient la volonté de Dieu qui dit ça. Il m'a demandé de tirer sur ce cheveu à telle heure parce que c'était le rendez-vous avec lui. Et je l'ai fait. Et puis 2 minutes après, il y a quelque chose qui ne va pas. Et pourtant, j'avais fait exactement la volonté de Dieu. Donc ça devrait bien aller. Oui, mais c'est pas ça la volonté de Dieu. Dieu veut que vous vous dirigez comme des hommes libres. Pas dans un fanatisme. Comme des hommes libres. Avec le souci de se conformer tout le temps à la volonté de Dieu. Alors vous voyez, c'est ça qu'il faut bien saisir. Et il reste pour nous toujours un mystère. On n'arrivera jamais à l'intuition. Dieu prévoit tout de toute éternité. Et ça, nous devons le dire. Il prévoit tout de toute éternité. Et Dieu veut de toute éternité pour nous. Et la volonté de Dieu est une volonté qui est commandée par son amour. Et nous, nous sommes dans le temps. Et nous devons tout faire pour accomplir la volonté de Dieu. Mais Dieu nous donne une lumière, non pas à l'égard du choix ultime, mais à l'égard du souci profond de rejoindre dans l'intention de notre cœur la volonté de Dieu. Tellement important de comprendre ça. Alors là, on voit qu'il n'y a pas d'opposition. Je prends un exemple, vous allez mieux comprendre peut-être. Un exemple qui peut arriver. Quelqu'un que vous aimez beaucoup vous fait une confidence en disant, ayant bien réfléchi, je crois que je dois prendre telle décision. Une décision importante dans sa vie. Et c'est ça la volonté de Dieu pour moi. J'en suis sûr. C'est ça que Dieu veut. Alors, si cette décision vous semble quelque chose de complètement à côté, je me dirais, est-ce que tu es bien sûr? Est-ce que tu ne vas pas trop vite? Est-ce que tu ne te laisses pas influencer? Est-ce que c'est bien ça? Parce que vous sentez bien que dans la conclusion ultime, on ne peut jamais savoir d'une façon absolue, même si un ange vient vous éclairer, vous voyez? Parce que vous douterez encore, c'est bien un ange. C'est pas le mauvais ange. Hein. C'est bien ça la volonté de Dieu, ce que vous pouvez savoir. Alors d'une façon très catégorique et très profonde, c'est que vous n'avez qu'un seul désir, c'est de faire la volonté de Dieu. Ça oui. Et vous voyez, c'est cet aspect-là qui, je crois, est très important, parce que c'est là où on voit le conflit qui peut apparaître. Dieu ne nous donne pas au plan humain comme au plan divin, du reste. Dieu ne nous donne pas une lumière qui dicte ce que nous devons faire. Dieu nous donne une lumière pour que nous agissions d'une manière tout à fait pure, avec le désir de faire pleinement sa volonté. De temps en temps, Dieu peut nous mettre au plus intime de notre cœur une décision qui nous semble bien être la volonté de Dieu. Et c'est ce que nous dirons. Ça nous semble bien être la volonté de Dieu. Il semble bien que je dois faire ça. Mais je n'en suis pas d'une sûreté absolue. Au plan purement philosophique, je crois que il faut bien comprendre qu'il ne peut pas y avoir, et ça c'est très important, il ne peut pas y avoir de conflit au sens propre entre les décisions de Dieu. Les décisions de Dieu regardent tout, pas seulement les grosses choses importantes de notre vie, elles regardent tout. Dieu décide que nous soyons des êtres capables de l'aimer, que nous soyons des êtres dans le bonheur. Dieu décide cela. Mais tout ça se réalise dans la lutte et dans le temps. Et nous sommes dedans, nous. Et nous ne voyons pas la décision de Dieu. Et nous essayons de rejoindre cela. Alors du côté de Dieu, c'est la certitude absolue. De notre côté, nous sommes dans cette lumière particulière, qu'on a suffisamment de lumière pour rectifier son intention tout le temps, tout le temps. Mais nous ne pouvons pas savoir d'une façon absolue. Ce choix particulier que nous devons poser, que ce choix est directement de Dieu. Et je dirais, il n'est jamais directement de Dieu, puisque Dieu veut que nous choisissions. Ça, c'est la volonté de Dieu. Dieu veut que nous choisissions avec ce que nous avons de lumière, ce que nous n'avons pas de lumière. Voyez, la question du libre arbitre, vue dans cette lumière de sagesse, nous montre que notre libre arbitre, c'est le libre arbitre d'un homme qui n'a pas l'intuition de ce qu'il doit faire. Et simplement l'orientation profonde vers une fin qu'il cherche à poursuivre, qu'il cherche à découvrir. C'est cela, je crois, que nous devons réfléchir. Alors on pourra, la fois prochaine, si vous avez des questions là-dessus, on pourra essayer d'élucider ces questions. Mais ce qu'il faut, c'est bien comprendre ce passage de l'éternité dans le temps et ce que l'éternité dans le temps va toucher sur notre volonté, et ce que Dieu laisse exprès pour sauvegarder notre liberté. Autrement, il n'y aurait plus de liberté. C'est vrai, ça. Si vous voyez exactement ce que Dieu vous dit de faire, vous n'avez plus qu'à exécuter. Et Dieu veut sauvegarder votre liberté. Alors il vous donne cette lumière tamisée, vous voyez.